Bien entendu, elle va avoir un impact sur la santé du nourrisson, non seulement tout de suite, là, pendant les semaines qui suivent, mais également pendant les années, voire beaucoup plus tard dans la vie.
Bonjour, je suis Xavier Jalleran, bienvenue dans ce 20e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, j'accueille Daniel Saint-Chol, docteur en pharmacie et pharmacologue, et aussi auteur du livre « Le nouveau guide des probiotiques ». Et au cours de cette interview, nous parlons de l'importance du microbiote pour notre santé et nous voyons ensemble ce qu'il est possible de faire pour favoriser le bon fonctionnement de nos intestins. Ceci ayant un impact considérable sur notre état de forme au quotidien. Deux points avant de lancer l'interview. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cette interview en allant sur le lien suivant, extraform.fr/20, le chiffre 20. Et le deuxième, c'est que vous pouvez vous abonner au podcast et laisser un avis 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur iTunes. Pour cela, le plus simple reste de passer par le lien extraform.fr/iTunes ou sinon, vous pouvez directement chercher Parlons Forme au sein du moteur de recherche de l'application. Je vous remercie d'avance et je vous souhaite une très bonne écoute.
Le parcours, c'est peut-être un peu... C'est comment dire, ce qui est bien, les choses qui sont bien, les choses qui sont moins bien. Ce qui est bien, c'est que, compte tenu que je suis une personne qui a un certain âge, maintenant, 73 ans, c'est à la fois réjouissant parce que ça permet quand même d'affirmer que nous avons une certaine expérience. Ce qui est moins réjouissant, c'est que, il reste un peu moins de temps à exister, quoi, voilà. Hein. Mais justement, il faut profiter de ce qui est positif. Le positif, c'est le fait qu'on a accumulé un certain nombre de données, de connaissances qui se transforment en possibilité d'aiguiller, de conseiller les personnes qui nous entourent d'une façon peut-être un peu plus sentie, un peu plus complète et un peu plus efficace, quoi. Bon, donc mon parcours, je suis un diplômé de pharmacie et sur la fin de ma carrière, donc j'ai fait une carrière pharmaceutique à la fois dans l'industrie et dans l'officine, et sur la fin de ma carrière, je me suis tout à coup, s'est révélé à moi un monde particulier qui a été celui de la relation entre la nutrition et la bonne santé. Parce que je me suis aperçu que c'était un point essentiel et qui est un peu négligé chez la plupart des professionnels de santé. On a quelques notions de nutrition qui nous sont données au début de nos études, et puis ça s'arrête un peu là. Or, on continue à exister, on continue à vivre, et nous ne vivons que parce que nous nous nourrissons, parce que nous prélevons dans l'environnement à la fois des nutriments et de l'oxygène dans l'air que nous respirons. Donc ces deux prélèvements que nous effectuons dans l'environnement sont fondamentaux pour notre existence, pour notre vie, et on n'en parle pas assez. Et c'est à la fois la possibilité d'en parler, mais surtout de comprendre comment ça se passe, comment nous nous assimilons, d'aller le plus possible en profondeur dans cette analyse justement de la relation entre notre environnement et nous-mêmes, et donc entre les nutriments, l'oxygène et nos cellules qui finalement nous font vivre. Donc voilà, et ça je pense qu'on ne peut le faire que lorsqu'on a, enfin on le fait d'autant mieux qu'on a une certaine expérience. Bon, à partir de là, je me suis intéressé à la relation nutrition-santé, et c'est dans le cadre, j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui s'appelle Thierry Soukar, qui est une personne de plus sérieuse et de confiance possible. Bon, et on a trouvé la possibilité de me raconter, donc j'ai écrit chez lui plusieurs livres, dont le dernier qui est ce fameux guide des probiotiques. Pourquoi? Parce que là aussi, alors il y a à la fois un phénomène de mode et un phénomène qui est moins, qui est celui de comment modifier nos comportements et notre, en l'occurrence notre flore intestinale pour vivre un peu mieux, pour contrer certains problèmes de santé qui viennent aujourd'hui sur le devant de la scène. Voilà, donc ce guide des probiotiques, il est venu du fait que c'était un secteur qui était quand même, bon, qui était connu de nombreuses personnes, mais qui était quand même un petit peu traité avec un bagage scientifique un peu léger. Or, il se trouve que depuis quelques années, les publications scientifiques et médicales dans ce domaine foisonnent. Il y en a plusieurs par jour qui sortent tous les jours dans une base de données scientifiques et médicales, et donc j'ai eu quand même beaucoup de travail en termes de documentation. Et d'ailleurs, ça n'est pas terminé, parce que c'est un monde en perpétuel mouvement, et les choses qui sont publiées et qui peuvent être considérées comme quasiment définitives sont assez rares. Donc c'est un peu ce que j'ai essayé de mettre en évidence dans le bouquin, c'est d'essayer de voir sur quoi on peut s'appuyer aujourd'hui dans ce domaine-là.
Ça marche. Alors du coup, peut-être une question de base, mais qui me paraît tout de même indispensable, je pense, c'est de peut-être commencer par expliquer aux personnes qui nous écoutent en quoi consiste justement ce principe de microbiote et de flore intestinale.
Alors, le microbiote, ce que je pense qu'il me semble intéressant à expliquer aux personnes qui nous écoutent, c'est y a deux grandes choses. Il y a le microbiote en tant que tel qui n'est rien sans son enveloppe, qui est le gros intestin, le côlon, et puis tout ce qu'on peut en tirer. Donc, la première des choses, c'est, et je parle un peu, quand je dis ça, je me souviens de ce que j'ai ressenti, moi, il y a 10 ou 15 ans sur ce sujet. En fait, on se doute bien que le microbiote est important, mais ce qu'il faut, c'est peut-être apporter quelques arguments supplémentaires pour préciser et pour affirmer l'importance de cet organe. Cet organe, quand je parle d'organe, c'est à la fois le microbiote et l'enveloppe qui est le gros intestin. C'est important parce que il suffit d'ailleurs d'imaginer morphologiquement que cet organe est important, parce que quand vous faites un tout petit peu d'anatomie, c'est pas peine d'être médecin ou chirurgien, on en est là, mais bon, on voit bien que le gros intestin, c'est un organe à part. Quand on compare morphologiquement, dans son aspect, dans sa constitution, l'intestin grêle, on voit bien que l'intestin grêle est un intestin relativement fragile, on va dire, par rapport aux intestins, que cet intestin grêle est fait essentiellement pour digérer nos aliments et les faire passer dans la circulation sanguine, alors que le gros intestin est au contraire une espèce d'enveloppe assez étanche, dans laquelle une vie se développe, et qui est cette fameuse flore intestinale, qui s'appelle aujourd'hui le microbiote. Bon, donc ça veut dire que l'organisme et l'évolution, parce que l'évolution joue un rôle fondamental dans cette affaire, nous explique, nous montre, nous fait toucher du doigt, si on veut dire, que le gros intestin, le côlon qui contient le microbiote, a un rôle particulier. Et je dirais, si on peut lui donner un qualificatif, c'est le bouclier. C'est peut-être des organes de protection, en fait. Ne serait-ce que parce qu'il est devant nous, donc c'est facile à comprendre, et sur la partie avancée de l'organisme. Et donc, il va jouer un rôle de défense et de protection. Et c'est justement ce qui est intéressant. Et qui est la deuxième chose, après la prise de conscience de l'importance de cet organe, il faut essayer de comprendre pourquoi. C'est ce que j'ai essayé de mettre dans le livre. Et puis, évidemment, après sa sortie d'un certain nombre de conseils par rapport, je vous dis, à ce qui est aujourd'hui publié et qui est retenable.
Est-ce qu'on sait comment se constitue cet environnement et ce microbiote?
Alors, je le disais à l'instant, il y a un mot qui est important qu'on ne peut pas ignorer, et qu'on est au contraire tenu de garder présent dans qu'on réfléchit lorsqu'on pense à ce microbiote, c'est l'évolution. Il est probable que cette flore intestinale, ces milliards de bactéries qui occupent ce site, en fait, nous suivent depuis que nous existons. Donc, en réalité, il y a eu à un moment donné, certainement, voilà, peut-être millions, voire milliards d'années, dans les organismes que nous sommes, pas forcément des Homo sapiens, mais même les créatures que nous provenons, il y a bien longtemps maintenant, il est probable que ce microbiote nous suit depuis très très longtemps. Donc comment est-il arrivé là? Ben, certainement par une simple contamination, peut-être que l'on peut imaginer que le gros intestin s'est refermé sur une flore qui l'a emprisonné pour essayer d'en faire quelque chose de bien. Peut-être a-t-elle été apportée simplement avec des aliments. Ça reste un peu du domaine de l'imaginaire, mais après tout, pourquoi pas. C'est comme ça qu'il faut bien imaginer quelques théories pour pouvoir les vérifier. Mais Voilà, donc la flore intestinale, elle s'est constituée au fur et à mesure que nous avons évolué, elle a évolué avec nous, voilà ce qu'il faut retenir.
D'accord, mais du coup ça veut dire que quand un enfant naît par exemple, ça veut dire qu'il a déjà une flore intestinale ?
Alors là, il y a pas mal de travaux qui viennent un peu contredire ce qui est les précédents des 10 dernières années. Le bébé, quand il naît, on a toujours pensé qu'il était complètement stérile, ce n'est pas tout à fait vrai, apparemment.
D'accord.
Donc, alors évidemment, il n'est pas non plus extrêmement contaminé, mais il contient une petite flore en petite quantité. Et par contre, ce qui est très important, c'est de savoir c'est que justement la maman va lui donner à travers notamment un certain nombre de produits, de composants qu'elle a dans le lait maternel, va lui donner des constituants qui vont lui permettre justement qui vont faciliter le développement d'une flore orientée vers une activation de son immunité de l'enfant. Donc ça c'est très important. Je vous dis que c'est très important parce que on connaît aujourd'hui la structure de ces composants, notamment de ces sucres complexes que la maman a synthétisés et qui sont donc on sait qu'ils sont destinés à nourrir une flore intestinale bénéfique pour l'enfant. Aujourd'hui, on sait le faire chimiquement parlant, on sait les synthétiser. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit apparaître sur le marché? Et ça, c'est un point qui est important de suivre, parce que moi, j'y crois, il me semble que ça me paraît une bonne idée. Ces sucres complexes qui permettent de nourrir une flore intestinale de bonne qualité, ils sont disponibles aujourd'hui sur le marché, notamment dans les lits infantiles, dans les formules infantiles. Donc ça, c'est quand même une avancée, me semble-t-il, majeure, dans le domaine de ce que l'on peut délivrer à des nourrissons pour leur faciliter leur croissance. Jusqu'à présent, on faisait un peu de l'approximation. On prenait des produits qui étaient liés, on essayait de prendre ce qu'il y avait, des matières grasses, des haches, etc. Aujourd'hui, on connaît la structure de sucre que la maman sécrète dans son lait, et on est capable de les reproduire, et donc de les donner. Ça, je pense que c'est une avancée majeure. Alors, il porte le nom en anglais de HMO comme Human Milk Meal. Je ne sais pas comment ils vont l'appeler aujourd'hui, mais c'est parce que là on est en plein dans le Marseille. Je crois qu'il y a deux laboratoires aujourd'hui qui nous donnent dans les formules infantiles, mais c'est un point à suivre et je pense que les mamans devraient regarder si elles donnent des formules infantiles, surtout à des nourrissons du premier âge, à naissance de 0 à 6 mois, de leur donner ces les formules qui contiennent ce fameux HMO.
Oui, parce que du coup, il y a vraiment cette idée que, enfin, cette période-là, et c'est une période charnière justement pour la création du microbiote, et que cette phase de création, enfin, ou en tout cas de pour la compléter, va avoir un impact sur sur la santé potentielle pour le restant des jours de la personne.
Bien entendu, elle va avoir un impact sur la santé du nourrisson, non seulement tout de suite là pendant les semaines qui suivent, probablement pendant des années, voire beaucoup plus tard dans la vie. Donc c'est une zone charnière, critique, qu'il ne faut pas négliger, au contraire, bien soigner. Et je pense que cette avancée, la découverte de la structure chimique de ce sucre en particulier que les mamans sécrètent dans leur lait, est une avancée majeure dans le domaine.
Je sais que vous parlez dans votre livre d'un certain nombre de facteurs qui peuvent avoir un effet négatif sur nos intestins. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns?
Oui, les effets négatifs, ce sont, alors là aussi, il y a ce qu'on peut imaginer, par un esprit normalement constitué, et puis ce qu'il en est, ce qui a été à partir de ces hypothèses, ce qui a été vérifié. Là, on est un peu encore dans le Nouvelle-Zélande, on ne sait pas encore très bien. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il semble bien, de façon quasi certaine ou presque certaine, c'est qu'un certain nombre de polluants sont impliqués dans un effet négatif sur notre microbiote. Ça, il faut faire attention. Les perturbateurs endocriniens, probablement le tabac, probablement vous voyez, tous les polluants que l'on connaît aujourd'hui qui ne sont pas des substances qui nous aident à vivre correctement sont impliquées par la sérum dans le microbiote. C'est là aussi que j'insiste un peu dans le détail sur le fait que ce microbiote, en réalité, il répond à tout. Il répond à pratiquement tout ce qui nous entoure. Et de façon, tout ce que l'on sait aujourd'hui sur ce qui est bon pour notre santé est bon pour le microbiote. Et quand c'est bon pour le microbiote, c'est bon pour notre santé. Donc il y a une espèce de cercle vertueux qui est en train de se créer là, pour les microbiotes, qu'il ne faut pas prendre, qu'il faut prendre en considération. Alors, plutôt d'ailleurs que d'insister sur un côté négatif des composants qui peuvent le détruire, du moins l'empêcher de fonctionner correctement, c'est de voir un peu ce qui le fait bien fonctionner. Et c'est là encore une fois que, avant de parler de compléments alimentaires, parlons de ce que de nutrition naturelle. C'est-à-dire que si vous mangez correctement, si vous avez une bonne nutrition et que vous apportiez en particulier la nourriture qui convient à ces bactéries, ben vous avez beaucoup de chances que votre flore intestinale soit en bonne santé pour qu'il y ait une correction. Là, tout simplement, je reviens à mon idée première. Une partie du tube digestif, l'intestin grêle, est fait pour digérer les nutriments, mais énergétique essentiellement, vitamines, minéraux, oligo-éléments, nutriments énergétiques, voilà ce que fait la première partie de l'intestin. Et tout ce qui reste de l'alimentation, qui n'a pas été digéré, parce que nous ne sommes pas équipés dans cette partie du tube digestif pour digérer ces aliments, ils vont être encore une fois moissonnés, digérés dans le gros intestin grâce à la présence de la flore intestinale. Donc cette flore intestinale, elle va donc compléter la digestion, compléter la moisson d'énergie de notre alimentation, et à travers tout ça, elle va donc se nourrir et se développer pour assurer une deuxième mission qui est l'immunomodulation, l'augmentation de l'immunité. Donc vous voyez, je trouve que la construction commence à être logique et relativement sympathique et à la fois facile à retenir. Donc, c'est pour ça que je vous permets d'en parler.
Je sais que justement, parce que là, comme vous parlez de la partie alimentation, est-ce que justement on peut favoriser au sein de notre alimentation certains types d'aliments qui vont faire qu'on va favoriser notre microbiote?
Ah oui, complètement. C'est exactement ça. C'est ce que je voulais dire un peu à travers le discours précédent. C'est que ces bactéries, en fait, on s'aperçoit qu'elles sont capables de digérer ce que nous ne pouvons pas digérer dans la partie de notre intestin. Et le maître mot, là, encore une fois, c'est le mot fibre. C'est le terme fibre. Fibre alimentaire, c'est-à-dire des sucres, des glucides complexes, qui sont impossibles de digérer dans la partie haute de l'intestin, et que pour lesquels, les microbes de la flore intestinale sont équipés pour les digérer. Donc, c'est eux qui vont récupérer ces sucres complexes, vont les découper en petits morceaux, et fabriquer à partir de là, non pas du sucre, du glucose, mais ce qu'on appelle des acides gras à courte chaîne, qui sont, alors si on peut dire que tout ça c'est fait au cours de l'évolution, il y a des millions d'années pour que ça fonctionne comme ça, et les bactéries donc, vont être capables de digérer ces sucres et de former essentiellement ce qu'on appelle des acides gras à courte chaîne, qui sont, eux, impliqués. Alors, ce sont des superbes anti-inflammatoires, ce sont des facteurs de croissance pour certaines cellules, notamment les cellules entériques de la paroi intestinale. Donc, vous voyez, il y a toute une logique merveilleuse, il y a toute une ingénierie formidable que le plaisir à découvrir lorsqu'on s'intéresse à ce sujet. Et alors, ces aliments, donc, question quand même importante, par quoi vont-ils être apportés? Essentiellement par les fruits et les légumes, et en particulier certaines catégories de fruits, plutôt des légumes, qui sont des légumes à fibres. Alors, je vais citer les racines composées, par exemple, les artichauts. Vous voyez, tous ces légumes qui contiennent des fibres sont impliqués directement dans le bon fonctionnement de la flore intestinale.
Alors, il y a peut-être aussi quelque chose qui peut être intéressant d'évoquer, parce que ça va pas forcément, enfin ça peut paraître un peu contre-productif, mais d'après ce que j'ai compris, en fait les médicaments, après ça dépend en fait de la quantité qu'on prend et peut-être de la période sur laquelle on les prend, mais en fait du coup les médicaments vont pas forcément avoir, ils peuvent ne pas avoir un effet très positif en fait sur notre microbiote. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça, parce que dans l'imaginaire collectif en tout cas on se dit qu'un médicament ça peut nous faire que du bien entre guillemets?
Oui, alors je peux pas vous D'ailleurs, c'est une question intéressante, mais qui n'est pas forcément souvent traitée, sauf pour un médicament particulier, qui sont les antibiotiques. Bon. Donc, si on enlève les antibiotiques pour lesquels on sait avec assez de précision par définition, ces antibiotiques vont venir détruire. Ils sont là pour détruire les bactéries de zombies pathogènes, mais en même temps, ils vont obligatoirement un effet sur notre flore intestinale. Bien que ce soit encore là tout à fait nuancé, parce que justement, précisément, quelques-unes de nos bactéries sont bactéries intestinales de la flore sont résistantes heureusement à ces antibiotiques, et c'est pourquoi on les préconise justement comme traitement d'appoint des antibiotiques. Pour précisément ne pas détruire totalement la flore intestinale.
D'accord.
Mais en termes, si vous voulez, si votre question porte sur l'idée de que font les médicaments, entre parenthèses, entre guillemets, traditionnels, sur la flore intestinale, je dois avouer là que la littérature n'est pas très abondante. Mais ça, par contre, la question est très intéressante parce qu'elle est, peut-être affaire de spécialiste, elle est très intéressante parce que je pense qu'aujourd'hui, lorsque un laboratoire veut mettre sur le marché de nouveaux médicaments, je suis quasiment convaincu, je ne suis pas dans les polices des agences nationales, je suis convaincu que les agences nationales demandent aux laboratoires qui mettent sur le marché un produit aujourd'hui de savoir quel est l'impact de ce produit sur la flore intestinale. C'est à peu près sûr.
Alors du coup, on a parlé de l'alimentation, par exemple, comme une solution pour préserver naturellement son microbiote. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire qui vont dans ce sens-là aussi ?
Il y a, si vous voulez, d'une manière générale, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de se comporter de telle sorte que des équilibres physiologiques, c'est-à-dire de bonne vie, soient proposés à notre flore intestinale. Par exemple, la notion de d'équilibre acido-basique va être intéressante. Je suis certain que si vous avez un organisme qui est hyper acidifié ou au contraire hyper basifié, ce qui est quand même assez rare, votre flore intestinale sera moins à l'aise que si vous connaissez un juste équilibre. Donc, je crois que c'est important, là aussi, encore une fois, une raison de plus pour consommer des aliments qui vont venir nous baisser l'acidité de l'organisme, donc fruits et légumes, encore une fois. C'est une raison supplémentaire. Alors, j'ouvre une parenthèse d'ailleurs à ce niveau-là, parce que, quelquefois, on dit, bon, sans trop approfondir le sujet, manger beaucoup de fruits et légumes. Et finalement, c'est quand on met toutes ces petites pièces les unes à côté des autres qu'on comprend pourquoi il faut manger des fruits et des légumes. Parce que finalement, il y a tout un tas de mosaïques d'effets positifs à la prise de fruits et des légumes, dont celle de faire vivre correctement une probiote.
Oui, c'est ça, c'est que c'est au-delà de simplement manger, bouger pour perdre 3 kilos, c'est que finalement, c'est toute notre santé en général qui va être impactée positivement par cette consommation de fruits et légumes au quotidien, quoi.
Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule nuance en disant manger des fruits et des légumes sans trop savoir pourquoi, finalement, là, on commence à savoir point par point pourquoi c'est intéressant.
Ouais, bon bah voilà, justement c'est aussi, on va dire, un des objectifs de ce podcast, c'est justement de permettre la diffusion de ce genre d'idées, ce genre de messages au plus grand nombre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus du coup, parce que donc voilà, on voit que effectivement il y a certains principes de bonne santé, de la vie quotidienne qui vont avoir un impact positif sur notre santé et sur notre microbiote aussi. Au-delà de ça, il est possible d'acheter, par exemple, en pharmacie au moins, ce qu'on appelle des prébiotiques et des probiotiques. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer la différence et nous dire en quoi ça consiste ?
Oui. En même temps que je vous écoute et que je vous parle, je me dis qu'il y a deux mots dont je ne vais pas parler qui sont quand même fondamentaux parce que ça sert un peu d'aide mémoire pour les gens qui nous écoutent. Le problème, les caractéristiques de notre flore intestinale sont résumées dans deux mots. Un, abondance, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de nombre de populations bactériennes dans notre intestin. Et deuxièmement, la diversité. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait suffisamment, à la fois en nombre et en famille de bactéries. Est-ce que vous me comprenez ?
Ouais, c'est clair.
Abondance, diversité. Voilà les maîtres mots de la flore intestinale. Alors, comment faire pour atteindre justement ces deux objectifs ? Bien, tout simplement, les nourrir convenablement, comme on l'a dit tout à l'heure, en apportant des fruits et des légumes, qui sont eux-mêmes générateurs de fibres, qui vont être digérés, parce que finalement, quand on dit qu'ils vont digérer, ça c'est l'aspect technique de la question, mais le fait c'est que la digestion va les nourrir, va les faire vivre, va les faire se développer. Donc, il faut leur apporter des fibres pour leur permettre de vivre et de se développer. et d'assurer leurs fonctions que nous avons évoquées tout à l'heure. Alors, comment faire? Ben, tout simplement, je vous disais, fruits et légumes en quantité suffisante. Ensuite, la diversité. Il faut savoir qu'il y a à peu près 1000 espèces bactériennes qui vivent dans nos intestins, mais que chaque individu, chaque personne que nous sommes, n'en possède jamais qu'environ 150. Donc, c'est-à-dire que sur les 1000, vous voyez, il y a des milliers de combinaisons possibles. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'entretenir cette diversité. Comment faire pour l'entretenir? Alors, nous avons deux grandes familles de bactéries qui sont dans ces qui sont bénéfiques. Et pourquoi elles sont bénéfiques? Comment sait-on qu'elles sont bénéfiques? C'est parce que précisément, ces deux familles de bactéries se développent chez le nourrisson. C'est pour ça que nous considérons qu'elles sont bonnes. Ce sont les fameux lactobacilles et les fameux bifidobactéries. Alors, comment faire? Ben, tout simplement, si on sait que si on apporte des fibres en quantité suffisante, on va développer ces deux familles de bactéries et qu'elles sont en plus disponibles sur le marché. Donc, ça veut dire que si vous achetez chez votre pharmacien ou dans votre centre de santé des compléments alimentaires à base de bactéries, que sont les lactobacilles ou les bifidobactéries, vous savez que vous ne pouvez pas vous tromper et que ça ne pourra pas vous faire mal. C'est une façon d'entretenir le nombre de bactéries, l'abondance, et c'est une façon d'entretenir la diversité des souches. Donc voilà, deuxième point important là aussi, qui peut intéresser les lecteurs consommateurs, les auditeurs consommateurs, c'est le fait que quelles sont les quantités qui sont significatives. Si vous en apportez moins de 1 ou 2 milliards par jour, ça ne sert à rien. Ça va être dilué dans la quantité, ça passera mieux là-dessus. Donc, quantité importante, quantité nécessaire, on va dire, à une efficacité quelconque, c'est, disons, 2 milliards de bactéries par jour, d'une souche donnée, si possible, avec plusieurs souches en même temps. Et là, vous allez avoir un impact sur le corps intestinal. Bon, il existe la deuxième chose, donc on l'a vu, alimentation classique, fruits et légumes en particulier, contenant des fibres. Deuxième façon, ce sont les aliments fermentés, c'est-à-dire des produits qui sont considérés comme des aliments et qui ont déjà été pré-ensemencés et pré-fermentés. Donc là, vous avez quelques-uns qui sont classiques et qui sont alimentaires. Hein. Vous avez la choucroute quand vous en trouvez, parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Vous avez les yaourts qui sont quand même des produits intéressants, bien que là aussi, on ne sache pas toujours que les fabricants ont du mal à nous indiquer si les bactéries qui nous donnent les yaourts sont vivantes ou pas. Et vous avez un super yaourt que j'appelle super yaourt, qui est le kéfir. Ce lait fermenté que vous trouvez dans les rayons bio ou dans les magasins spécialisés. Le kéfir, voilà. Voilà, donc, alors, là aussi, c'est peut-être pas, si vous n'êtes pas habitué, ça risque de provoquer des petites réactions particulières, mais qui vont disparaître au fur et à mesure. Et puis, de toute façon, rien n'oblige les personnes à faire des cures très prolongées de ces produits-là. Vous faites une cure d'une semaine, vous arrêtez quelque temps, vous regardez. Et quand vous allez sentir que les choses s'arrangent un petit peu, à ce moment-là, vous réglerez le tir pour continuer.
Justement, est-ce qu'il y a des... parce que là, vous dites, quand vous allez sentir que les choses s'arrangent, est-ce qu'il y a des signes, on va dire, qui, voilà, entre guillemets, qui ne trompent pas?
Oui, alors, il y a un petit paragraphe dans le bouquin sur justement qu'est-ce que c'est qui vous permet de savoir que vous avez besoin ou que peut-être se passe-t-il quelque chose de particulier du côté de l'intestin. Voilà. Bon, mais si vous voulez, c'est en général, vous savez, c'est pas très bien. Je me rappelle d'un gars avec qui je travaillais il y a une vingtaine d'années qui parlait de malfoutose, générale. Alors, c'est le genre de choses qui peut être intéressant et que l'on peut arriver à régler. Peut-être y a-t-il un dérèglement dans votre tube digestif et ça vaut la peine vraiment de regarder de ce côté-là si des apports de bactéries, soit sous forme alimentaire, soit sous forme de compléments, peuvent vous apporter quelque chose.
Est-ce que ça a du sens de prendre des compléments alimentaires alors qu'on n'a pas forcément une alimentation qui serait déjà adaptée?
Non, c'est pas une bonne idée. Soyons raisonnables. On n'est pas là pour faire dépenser de l'argent aux gens qui nous écoutent. Commençons par nous soigner par nos familles, par nous faire vivre correctement grâce à l'alimentation. Si l'alimentation ne parvient pas, alors on est toujours en train de rajouter des produits dans le quotidien.
Ça marche. Dans votre livre, vous parlez d'un certain nombre de pathologies. Alors, il y en a 18, donc c'est des pathologies les plus courantes, telles que l'arthrose, la dépression, la fatigue, le stress, le surpoids, etc. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on mette juste peut-être notre attention sur la question de la fatigue et le manque d'énergie, parce que j'ai en tout cas ce sentiment que c'est vraiment un mal, on va dire, qui touche vraiment beaucoup de personnes. Et si on se trouve dans ce cas-là, est-ce qu'il y aurait des pistes à suivre justement?
Oui, dans le domaine de la fatigue, c'est encore un secteur de la recherche qui est quand même aussi un peu d'évolution, où pas mal d'études sont effectuées. Pour moi, la fatigue, ce que je peux en dire, c'est que la fatigue, en principe, si on veut trouver des bases scientifiques et rationnelles, c'est le système biologique responsable de la production d'énergie qui est touché dans notre organisme. Autrement dit, ça veut dire que dans l'intimité de la cellule, c'est un organelle particulier qui s'appelle la mitochondrie qui est probablement en déficit de quelque chose. Alors, c'est vrai que là, j'ai un peu de mal à établir le joint, mais il est probable. Alors, il y a aussi ça, il y a aussi les vitamines. Donc, si on veut être logique, si on veut essayer d'améliorer le fonctionnement de notre production d'énergie, qui est la mitochondrie dans la cellule, comment faire grâce au microbiote? C'est simplement d'améliorer les cofacteurs, c'est-à-dire les facteurs vitaminiques dont le microbiote est responsable, le microbiote en particulier. Et voilà. Donc c'est vrai que le microbiote peut venir nous aider dans la production de l'environnement du système chez nous responsable de la production d'énergie. Donc ça peut fonctionner. Et à ce moment-là, il faut prendre des bactéries toutes simples. Là aussi, c'est pas très compliqué. Hein. On reste sur du lactobacille, du bifidobactérie, et ça peut fonctionner.
Ok.
Là aussi, c'est pas compliqué. Hein. Et si on respectait les règles de l'homme, pas apporter un peu plus, d'aliments qui sont générateurs de nourriture pour nos bonnes bactéries, apporter si cela n'est pas suffisant ou bien juste systématiquement après avoir modifié cette alimentation, une semaine plus tard, vous apporter quelques compléments de bifidobactéries et de lactobacilles, et ça améliore. Alors là on parlait de l'amélioration par le biais de probiotiques. Il ne faut pas oublier que vous pouvez aussi y apporter des compléments de prébiotiques.
D'accord.
C'est-à-dire que, et en particulier, il y a un prébiotique qui est le plus travaillé dans le monde de la recherche, il s'appelle l'inuline. I-N-U-L-I-N-E. C'est en fait un oligosaccharide, donc un sucre complexe, que l'on retrouve dans la plupart des racines, c'est-à-dire la totalité des racines en particulier de plantes de la famille des composés. Le plus connu et qui est celui qui est le plus utilisé pour en extraire l'inuline, c'est la racine de chicorée. Et donc voilà, là aussi c'est une très bonne idée. Si vous avez envie, non pas d'apporter des bactéries, mais si vous avez envie d'apporter de la nourriture à des bonnes bactéries, prenez un petit peu d'inuline à raison de 50 grammes par jour. Faites une cure de 3 semaines, et vous voyez, ça va complètement changer le fonctionnement de l'intestin.
Ok. Ça marche. Bah écoutez, on va pas, de toute façon, c'est pas le sujet de notre entretien d'aujourd'hui, rentrer dans le détail des différentes pathologies que vous présentez. Donc après, voilà, j'invite les auditeurs à aller voir la présentation de votre livre pour voir si de toute façon ils pourraient être concernés par leur cas en particulier. En tout cas, merci Daniel. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, un site ou des profils sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur ce que vous faites et suivre votre actualité?
Non, je n'ai pas de site. Vous savez, je ne sais pas si mon mail est indiqué dans le livre, mais si il passe par chez vous, peu importe. Moi, je suis tout à fait ouvert à une discussion parce que je n'aurai pas le temps. Mais s'il y a des questions un peu précises qui sont posées, moi, je vais y répondre. Si on peut résumer un peu la situation pour reprendre tout ça, Donc, c'est le gros intestin qui abrite la flore intestinale, en fait, il joue un rôle fondamental. Il faut se rappeler de ça. Il faut essayer d'y mettre une consistance à ce terme de fondamental. Pourquoi il est fondamental? Tout simplement parce qu'il assure des fonctions très intéressantes, dont on est certain aujourd'hui. Ça, on ne reviendra pas là-dessus. La flore intestinale assure, a un rôle bénéfique parce qu'elle interfère avec les pathogènes. Elle interfère avec les bactéries pathogènes qui, ils n'ont pas une tête pour nous vouloir du mal, mais leur vie est essentiellement liée à une multiplication ininterrompue. Donc, la flore va interférer. La bonne flore va interférer avec ces pathogènes et va empêcher leur développement. Deuxième chose, c'est cette flore va améliorer la fonction de barrière intestinale. C'est-à-dire, va resserrer les cellules intestinales de telle façon que rien, sauf ce qui est bon, ne puisse traverser. Deuxième point. Troisième chose, elles vont interférer, bien entendu, avec les effets modulateurs sur notre système immunitaire, c'est-à-dire qu'elles vont aider à fabriquer, elles vont aider nos cellules responsables de la production des substances de défense, cette flore va les aider, notamment les leucocytes, vont les aider à fabriquer les substances qui vont phagocyter, qui vont détruire les envahisseurs. Et la quatrième chose, c'est finalement, c'est plus intéressant, c'est un peu le secteur évolutif de la recherche aujourd'hui, c'est cette flore, elle digère des fibres, mais elle produit aussi ce qu'on appelle des métabolites, c'est-à-dire des substances qui vont venir nous aider à vivre normalement. Et en particulier, c'est un axe aussi aujourd'hui très intéressant, le fameux axe intestin-cerveau, va être aidé grâce à la sécrétion de certains métabolites par notre flore intestinale, qui vont aider à faire en sorte que les équilibres s'installent. Et quelquefois, ce sont ces déséquilibres qui, par exemple, sont à l'origine de certaines dépressions.
Il y a cette idée assez... Alors après, je ne sais pas si on voulait en parler quelques minutes, mais effectivement, il y a souvent cette idée assez de plus en plus connue, en tout cas, et qui se diffuse aussi, de cette idée que notre ventre est notre deuxième cerveau et que la relation entre les deux est extrêmement importante, en fait.
Oui, l'expression « le ventre est le deuxième cerveau », moi, elle m'inquiète un peu, parce que je ne vois pas trop... On ne peut pas comparer même l'état nerveux, l'état des cellules nerveuses de notre intestin au cerveau. Mais par contre, la relation entre le cerveau et l'intestin, celle-là est très forte. Et celle-là, il va falloir la travailler. Maintenant, là aussi, encore une fois, c'est une phrase que je viens exposer, délivrer, c'est lorsqu'on s'intéresse à le microbiote comme moyen de se soigner, comme moyen de récupérer un bon état de santé, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas de l'aspirine, vous comprenez, c'est quand vous avez un mal de tête, une demi-heure après, on peut l'aspirine et tout va bien. On n'est pas là, c'est pas ce genre-là. On est dans des médecines douces, et par définition, les choses vont doucement. Donc, c'est-à-dire que, si vous entreprenez aujourd'hui un traitement portant sur le microbiote et sur le tube digestif, les résultats, vous n'allez pas les avoir demain. Il faut bien attendre quelques jours, voire quelques semaines. Et par contre, un petit peu de persévérance et tout va aller bien.
Très bien. Et bon, dans ce cas-là, on va conclure cette recommandation et sur cette pensée positive. merci beaucoup, Daniel.
Écoutez, vous me direz si ça me semble apporter quelque chose.
Très bien. Merci beaucoup.
Allez, à bientôt.
Au revoir. Encore merci Daniel pour votre participation à cet épisode. Alors vous pouvez retrouver les notes ainsi que la retranscription écrite complète de ce podcast en allant sur extraform.fr/20, le chiffre 20. De plus, vous ne le savez peut-être pas, mais si j'ai décidé de lancer ce podcast, c'est parce que je me suis donné la mission de favoriser le partage des connaissances afin d'inspirer les gens pour que leur quotidien soit enthousiasmant et épanouissant. Cela passe donc par la publication de ces interviews chaque semaine, mais aussi par l'animation du groupe privé Forme Idéale sur Facebook. Vous pouvez nous rejoindre gratuitement et la communauté des idéalistes se fera un plaisir de vous accueillir dans un esprit d'entraide et de bienveillance, afin de vous aider à avancer et à progresser sur votre challenge du moment, que ce soit autour du poids, de l'énergie, de l'activité physique et tout ce qui concerne le bien-être en général. Pour en savoir plus et accéder au groupe, montrez-moi simplement votre souhait y participer et répondez aux trois questions posées. Vous pouvez imaginer ces questions comme la porte d'entrée du groupe. Prenez le temps de répondre aux questions car c'est important et d'ailleurs, toute demande sans réponse ne sera pas validée. Alors pour nous rejoindre, passez par le lien extraform.fr/groupe ou cherchez directement Forme Idéale dans le moteur de recherche de Facebook. Je suis impatient de vous lire et d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.